RFI, édition spéciale. Anne Corpet.
Bienvenue à tous, nous sommes le 10 mai et en France, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions pour la deuxième année consécutive. RFI et la radio Outre-mer, la première, vous propose une émission spéciale préparée et présentée avec vous, Thierry Belmont. Bonsoir Thierry, merci d'être ici en studio avec nous.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous. La traite transatlantique, le transfert forcé organisé par les puissances européennes de plusieurs millions d'Africains entre le 16e et le 19e siècle, c'est la plus grande migration maritime et humaine jamais vue dans le monde. Un terrible voyage que certains historiens nomment la grande déportation. Nous avons choisi de parler de la traite transatlantique, mais il a existé d'autres traites d'esclaves à la même époque, notamment dans l'océan Indien, avec des caractéristiques différentes.
En France, cette traite transatlantique est officiellement reconnue comme un crime contre l'humanité depuis la loi Taubira du 10 mai 2001, une loi qui a aussi rendu obligatoire l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. C'est justement la question de la transmission de cette mémoire douloureuse en Afrique et aux Antilles Guyane que nous allons aborder plus spécialement. Quel regard les Antillais et les Africains portent-ils sur cette époque? Cette terrible histoire commune est-elle bien connue des deux côtés de l'Atlantique? Rapproche-t-elle les populations? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, heure de Paris.
Et pour évoquer cette tragédie de l'histoire, la manière dont elle est perçue et transmise en Afrique et aux Antilles, nous sommes en direct avec quatre invités répartis des deux côtés de l'Atlantique. Depuis les studios de Guyane la Première à Cayenne, Jean Moumou, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, maître de conférences à l'Université des Antilles et vous êtes d'origine Boni, c'est-à-dire descendant d'esclaves marrons du Suriname installé en Guyane française. On en parlera dans un instant. Vos ouvrages retracent l'histoire de ce peuple.
À Yenne, au Sénégal, nous retrouvons Ibrahim Thioub. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien sénégalais, vos travaux et votre enseignement portent notamment sur les esclavages et traites négrières que vous avez abordés sous les angles économiques, culturels, juridiques et sociaux. Merci d'être avec nous.
Bonjour Gilbert Pagou. Merci.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis le studio de Martinique La Première à Fort-de-France. Vous êtes agrégé d'histoire, directeur de l'UFM de Martinique, spécialiste de l'histoire de la Caraïbe et des Antilles françaises.
Enfin, Serge Billet, vous êtes aux côtés de Gilbert Pagot à Fort-de-France, journaliste, écrivain, vous avez une culture des deux rives, puisqu'originaire de la Côte d'Ivoire, vous vivez depuis plus de 30 ans en Martinique. Merci à tous d'être en direct avec nous pour cette émission spéciale.
Merci. La connaissance du passé nous aide à comprendre le présent. C'est un concept qui revient souvent. Gilbert Pagot, pourquoi au 21e siècle, en est-on encore à se demander si l'on connaît suffisamment ce passé qu'est la traite négrière?
Eh ben, le problème essentiel a été que l'esclavage et la traite négrière ont été de forts traumatismes et que pendant longtemps, après l'abolition de l'esclavage, la théorie officielle était qu'il faut oublier le passé pour construire l'avenir. Donc pendant tout un certain temps, on a ignoré cela, y compris en Martinique, on a ignoré pendant longtemps, y compris les événements qui ont conduit à l'abolition de l'esclavage. Ce n'est que depuis une cinquantaine d'années que ça a repris de la vigueur en Martinique.
Ibrahim Thioub, en Afrique, c'est pareil, c'est un sujet qui n'est abordé que depuis récemment?
Non, en Afrique, la traite est abordée et enseignée dans les écoles depuis fort longtemps. Bon, dans les programmes scolaires, mais également, il est arrivé très fréquemment qu'on en ait une vue dans les médias, aussi bien dans la littérature, le théâtre. C'est présent dans des lieux de mémoire qui sont très connus le long de la côte atlantique. Donc c'est un sujet qui est présent depuis bien longtemps, mais abordé d'une certaine façon qui fait que parfois on a beaucoup plus insisté sur l'abolition, en particulier pendant la période coloniale. L'enseignement qui était donné, c'était plus autour de Schœlcher et l'abolition de l'esclavage.
On reparlera de l'enseignement.
On abolissait quelque chose qui n'était pas reconnu.
Alors, la France a donc été le premier pays à inscrire dans la loi la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Le texte stipule que les programmes scolaires doivent accorder la place conséquente que mérite cette tragédie. Jean Momou, pourquoi était-il si important d'intégrer la notion d'enseignement de la traite à la loi ?
Ben parce que ça permet de transmettre cette histoire aux générations. Et donc, c'est pour ça il y a une... Parce qu'il y avait eu un silence lié à cette histoire à travers les manuels. Mais attention, il y a tout de même, quand on remonte, et M. Pagot, l'historien Pagot pourra compléter, il y avait tout de même des traces de cette histoire abordée par le biais de la colonisation dans les manuels scolaires de Martinique début 1900 ou de Guyane jusqu'aux années 60. En revanche, là, ce qui va changer, c'est à partir des années 60, grâce au mouvement militant, des militants anticolonialistes, et bien là, il y aura une mise en scène de cette histoire dans le mouvement de la revendication. Et puis, à partir de la loi Taubira, on aura davantage d'éléments liés à cette histoire dans les manuels. Mais faire de l'histoire, c'est faire un choix. Enseigner, c'est faire des choix. Voilà. Donc, pour dire, c'est important. Au moins, les générations futures vont connaître d'aujourd'hui et de demain, connaîtront cette histoire qui n'est pas une parenthèse historique, mais une véritable histoire qui structure leur vie d'homme d'aujourd'hui et qui structurera encore pour demain.
Oui, vous l'avez dit, Jean Momou, enseigner, oui, mais comment ? La traite n'est pas abordée de la même manière dans toutes les filières. Et il y a une différence aussi entre ce qui est transmis dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Écoutez ce qu'en dit Jalissa Sekhmet, professeure des écoles afro-caribéennes.
L'enseignement de l'esclavage est déjà différent en France selon les filières. Donc si on est dans une filière générale, il y a un programme, et lorsqu'on est en lycée, par exemple, professionnel, il y a un autre programme. Donc déjà, les programmes de cet enseignement sur l'esclavage diffèrent déjà en France. Et il est également différent donc en Guadeloupe et en Martinique. On aborde par exemple la révolte de Saint-Domingue, Toussaint Louverture. Donc ça, c'est vraiment qu'en Guadeloupe et en Martinique, et dans la section professionnelle en France.
Pour être clair, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de Noirs en filière professionnelle, et donc on pense que cette histoire est beaucoup plus sensible dans ces filières-là, tout simplement.
Serge Billet, c'est le fait d'avoir un enseignement différencié selon les filières, les origines, c'est une bonne chose. Est-ce que ça risque pas de fragmenter encore un peu plus la communauté française entre noir et blanc, entre l'Hexagone et l'Outre-mer ?
Non, ce n'est pas une bonne chose, parce que ce serait considérer que cette histoire appartient à certains et pas aux autres, alors que toute l'histoire nous est commune. Je sais que j'ai écrit un livre en 2005 qui a eu un gros retentissement, qui s'appelait Noir dans les camps nazis, qui parlait de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale des Noirs africains, antillais, Noirs américains dans les camps de concentration. Et à cette occasion, on a vu que justement les personnes qui étaient issues des communautés noires s'intéressaient un peu plus à la question de la Shoah, parce qu'ils se sentaient concernés. Eh bien, c'est la même chose par rapport à l'esclavage. Nous sommes tous concernés par cette même histoire. Il suffit de trouver le biais pour pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous puisse accéder à cette histoire, peut-être de façon différente selon nos origines, mais quoi qu'il en soit, cette histoire nous concerne tous, donc ce n'est pas bien de faire un enseignement différencié.
Gilbert Pagot, justement, ou Jean Momou, est-ce que c'est une demande des professeurs, justement, d'une certaine manière, d'uniformiser cette histoire, Gilbert Pagot ?
Non, il faut enseigner l'histoire. Bon, alors je sais pas très bien ce que vous appelez une histoire particulière. Bon, on est obligé chaque fois d'adapter son enseignement au public, selon qu'on enseigne à classe primaire, au collège, ou au lycée, ou à l'université. Il y a des niveaux différents pour la transmission. Donc, de ce point de vue, moi je crois que il faut exiger que l'on puisse étudier tous les éléments de l'histoire de l'esclavage et de la traite, mais à tous ces niveaux d'enseignement.
Oui, sur les contenus, Jalissa Sekhmet, qu'on a entendu tout à l'heure, n'est pas tout à fait satisfaite. Et on va l'entendre, chaque mot compte dans la transmission du savoir. Écoutez.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que les élèves, en fait, retiennent de cette histoire. Et comme l'histoire, elle est découpée, on passe du 15e au 16e, on ne parle pas des révoltes, donc de toute façon, moi, cet enseignement ne me convient pas en tant que professeur et en tant que maman afro-caribéenne. Et donc, c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai créé ma maison d'édition qui propose des outils sur cette histoire à destination des parents et des enseignants. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce d'école extrascolaire, justement pour compléter les programmes, parce que les programmes ne conviennent pas, et en plus de ça, ils sont très très lents, très très lents à changer. Il y a des changements de vocabulaire qui se sont ajustés, en fait, dans les bulletins officiels. Donc, je donne un exemple. Avant, on disait tout le temps esclave. Maintenant, on dit africain réduit en esclavage. Et donc, rien que pour changer ce terme, ce sont des années et des années de combat. Donc, c'est pour ça que là, on parle des programmes, mais derrière, c'est vraiment des gros, gros, gros combats.
Gilbert Pagot, je reviens à vous. Quelle est votre réaction? D'ailleurs, en quoi était-ce important de remplacer le terme esclave par africain réduit en esclavage?
Oui, parce que notre société actuelle, celle du 21e siècle, on est très sensible aux idées de dignité, de respect, et à partir du moment où vous dites que quelqu'un est esclave, comme si c'est quelque chose de qui lui est transmis génétiquement, vous attaquez son humanité, sa personnalité. Mais là, il est évident aussi qu'au cours des années, au cours des décennies qui vont arriver, on va sûrement plusieurs fois remettre en cause des notions, des termes. Mais c'est tout à fait normal, c'est une évolution tout à fait normale. Hein. Ça ne me pose pas de grands problèmes. Et bon, moi, je suis d'accord pour qu'on parle de gens qui ont été réduits en esclavage au lieu de dire que ces gens sont des esclaves par essence.
Alors, on le disait tout à l'heure, la traite est aussi inscrite dans les programmes scolaires de certains pays d'Afrique. Hein. C'est le cas au Bénin. Cet enseignement est au programme en CM1 et en 4e. Jean-Luc Aplogan s'est rendu au groupe scolaire privé La Plénitude, une école de Cotonou, où il a suivi une leçon sur le sujet avec une classe de CM1, avec donc des élèves qui ont entre 8 et 10 ans. On écoute son reportage.
Nous sommes mercredi au groupe scolaire La Plénitude. Avant de libérer ses élèves, la directrice propose une petite révision. Il s'agit d'une leçon sur la traite négrière en classe de CM1. Ils sont une quinzaine, tous assis face au tableau, portant un uniforme en tissu africain de couleur bleue. Il est un peu plus de 11h. La séquence commence par un chant engagé à la gloire de l'Afrique. Début de la leçon, l'institutrice interroge. Que savez-vous de la traite négrière? Plusieurs doigts se lèvent. Ariel, Russell et Dayon livrent leurs réponses.
La traite négrière est la vente des esclaves noirs.
Ils amenaient les Africains dans des bateaux, dans des conditions inhumaines.
Ce fait historique est abordé à travers un spectre varié. Arliat Adandedian parle de sa pédagogie.
Ils ont des questionnaires d'enquête. Nous avons aussi des excursions. On leur montre des images.
La classe est très intéressée, elle réagit bien, rapporte l'enseignante, qui décèle parfois de l'émotion.
En racontant l'histoire, on remarque qu'il y a des sentiments de tristesse sur le visage de certains enfants.
En cours d'année, certaines évaluations portent sur la traite négrière. Le sujet a été également proposé à l'examen du certificat d'études primaires. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Ibrahim Atiouk, vous êtes sénégalais. À quel âge et comment vous avez découvert l'histoire de l'esclavage? C'était à l'école?
Je voudrais d'abord apporter une petite précision. On est en train de parler de traite des esclaves et on est en train de parler d'esclavage. Et souvent, on les confond. Et c'est un des problèmes de l'approche qu'on en a. Il est tout à fait évident que quand on est à l'école primaire ou au cours moyen, au collège ou au lycée, l'approche va être différente. Mais dans tous les niveaux, on doit enseigner les résultats des recherches scientifiques établies par les historiens et non pas enseigner la mémoire. On doit tenir compte de la mémoire. On doit l'engager dans la recherche. Mais c'est pas ça. Ça doit être transmis par les communautés ou par d'autres acteurs. Mais au niveau de l'école, c'est les résultats de la science historique qu'il faut transmettre. Et à ce niveau, on a personnellement, dès l'école primaire, j'avais déjà des cours sur l'enseignement sur l'esclavage, plus particulièrement sur la traite des esclaves. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en confondant traite des esclaves et esclavage, on gomme le fait que l'esclavage est un phénomène universel, connu depuis l'aube des temps, à Rome, en Grèce, dans l'Empire ottoman, en Amérique, partout, dans toutes les sociétés humaines, il y a eu l'esclavage, y compris dans les sociétés africaines.
Oui, et la différence,
La différence, je vais vous utiliser une métaphore pour vous rendre compte de la différence. C'est comme confondre la graine d'arachide qu'on cultive et qu'on exporte à Bordeaux avec l'huile qui sera extraite de cette graine d'arachide. Pour réduire quelqu'un en esclavage, il est nécessaire d'abord de le capturer, ensuite de le faire circuler, puisqu'on ne peut pas être esclave chez soi. Et cette circulation peut aller dans des espaces extrêmement éloignés. Et donc, le processus-là n'est pas, le terme esclave ne rend pas compte de ce processus. En anglais, on a le mot enslavement qui renvoie à un processus. Mais quand on dit esclavage, ça décrit un état.
Oui, c'est pour ça justement, Ibrahim Atchoub,
cette distinction qu'il est important de faire pour savoir que l'esclavage c'est connu de toutes les sociétés humaines. Deuxièmement, l'esclavage atlantique, même si tous les esclaves étaient des Noirs, tous les Noirs n'étaient pas des esclaves et certains Africains ont pris part, en accord avec les Européens, à l'organisation de la traite. Et savoir que les sociétés africaines étaient hiérarchisées, divisées, et qu'en conséquence, si on a une approche chromatique, une approche par la couleur de la peau, on est dans la mémoire et dans l'idéologie forgée par les négriers eux-mêmes pour pouvoir nous introduire dans une impasse qui est liée au fait que quand on pense nature, c'est-à-dire que la personne est réduite en esclavage du fait de la couleur de sa peau, on lui voile le fait que c'est un être historique, pas un être naturel, et que c'est un acte historique, physique de violence.
Est-ce qu'on peut vous couper, Ibrahim Atchoub? Est-ce qu'on peut vous couper, s'il vous plaît? On va y revenir à tout cela. Et je vous disais que c'est pour ça, justement, que le thème de l'émission, c'est la traite transatlantique. Évidemment, on vous a posé une question, Anne Corpet vous a posé une question. À quel âge avez-vous découvert l'histoire de l'esclavage? Vous aviez dit que c'était très tôt à l'école. Je vais poser la même question à Jean Momou, qui se trouve en Guyane. Jean Momou, vous étiez à l'école bien avant le vote de la loi Taubira. À quel âge vous avez eu conscience de la traite transatlantique?
Alors, cette histoire, effectivement, je ne l'ai pas connue à l'école primaire. Bon, j'ai été scolarisé à l'école primaire par Papa Icheton. Et j'ai pas eu l'histoire du marronnage, ni l'histoire de l'esclavage, rien du tout. C'est un professeur africain qui nous a donné un travail, mais dès la classe de cinquième, on a abordé un petit peu, mais c'est dès la classe de seconde qu'un prof nous donne un sujet sur de la traite négrière, intitulé de la traite négrière à l'esclavage dans les Amériques. Mais c'est là que j'ai découvert, effectivement, nous les Boni, ou les Djouka, les Saamaka, les Kunti et Matara, ils sont venus par le biais d'un trafic. Et alors, moi, je pensais, dans mon imaginaire, que c'était les deux continents qui étaient réunis. Bon, j'ai pas appris cette histoire à l'école, mais quand maintenant, je suis intéressé depuis la classe de sixième, je suis un passionné d'histoire, et puis j'ai lu des choses, et j'ai compris un petit peu. Voilà, donc, aujourd'hui, ça s'impose, mais de la même manière qu'il n'y a pas la présence, si vous voulez, on revendique la présence de l'histoire de la traite dans les manuels, eh bien, l'histoire aussi des sociétés et cultures de Guyane mérite leur place de façon plus ample dans l'enseignement. Vous voyez, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le professeur Ibrahim Atchoub, la distinction entre mémoire et histoire, et il ne faudrait pas que cette mémoire s'impose, parce que des fois, la mémoire discrimine. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. Et qu'il est bon d'entendre ces mémoires, mais en même temps, quand l'histoire, la parole de l'historien, entre guillemets, parce qu'on peut se tromper, quand il y a une vérité qui s'impose, il faut que les gens l'admettent. Parce que c'est une histoire, on est dans des processus très complexe. Mais il y a une mémoire, il y a une sémantisation de la mémoire. De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons une mémoire, si vous voulez, heureuse, où l'empire colonial a réussi, s'est imposé un peu partout. Et de l'autre bord du continent, on a une mémoire honteuse. Donc voilà, là aussi, c'est pour ça qu'il y a une discordance entre la manière d'apprécier cette histoire dans les deux bords, au niveau des deux rives de l'Atlantique. Et Bougumil parle bien de cela.
Répondez, j'ai like, wo wo, sita. Répondez, j'ai like, wo wo.
C'était Pazingué du groupe guadeloupéen Akio.
Alors, on a parlé de la transmission de l'histoire de la traite transatlantique à l'école, mais les adultes aussi sont concernés, ils doivent en apprendre plus sur le sujet. Vous notez un regain d'intérêt pour ce passé douloureux, Serge Billet, ou c'est un sujet que les adultes ont peut-être tendance à évacuer?
Écoutez, moi, je vais parler de ma propre expérience. Pour moi, je pense que les gens s'y intéressent beaucoup. Quand je suis arrivé en Guyane, et je suis content d'entendre Jean Momou, quand je suis arrivé en Guyane en 1993 et que je me suis retrouvé en pleine forêt avec les populations Saramaka, Boni et autres, et que j'ai été vraiment frappé par les traditions africaines qu'elles avaient préservées, j'aurais proposé de faire un échange et de les emmener en Afrique. Ils étaient passionnés par ça, ces adultes-là, et quand on les a emmenés en Côte d'Ivoire en 1994, c'était un échange extraordinaire. Les gens avaient envie d'en savoir un peu plus sur ces personnes qui étaient parties, qui avaient été des Noirs marrons, qui se sont retrouvés en forêt, qui ont préservé leur culture. Donc il y a un intérêt pour cela. Le vrai problème, c'est que comme l'enseignement ne suit pas généralement, ou en tout cas c'est fait de façon épisodique, s'il n'y a pas ces réactions, s'il n'y a pas ces rencontres, s'il n'y a pas la façon de se voir les uns les autres, de savoir ce qu'on est devenu ou de savoir ce qu'on a été, eh bien peut-être que ça enlève quelque chose. Et c'est pour ça que je crois beaucoup aussi, au-delà de l'école, à ces rencontres-là qui permettent à des gens issus de l'Afrique et à ceux de la diaspora de se rencontrer, de se retrouver et de construire ensemble une mémoire qui va s'ajouter à l'histoire. Donc, dire comment les adultes le perçoivent, moi je pense que c'est la façon dont on enseigne les choses, la façon dont on met en scène aussi les choses qui permet de voir si on peut s'intéresser ou pas.
Oui, et pour s'informer justement sur la traite, les lieux de mémoire ont un rôle essentiel. Écoutez ce reportage réalisé par Audrey Gauvindin à la Savane des Esclaves dans la commune des Trois-Îlets en Martinique.
Ça qui m'aimait beaucoup, c'est quand je se trouve dans les pieds, là, qui ont attaché leurs pieds avec... Ça m'émeut, ça me donne la chair de poule. Et ils ont souffert, hein. Ah ouais, ils ont souffert. Ça se voit, sur tous ces outils-là, sur tout ce qu'ils ont mis dans leur cou, etc. Ils ont souffert. Hein.
Lorsque vous regardez à l'intérieur de cette case, qu'est-ce qui vous touche?
Les deux mains qui sont attachées, là, avec les chaînes, il y a le sang qui boue, quoi. On dit, c'est pas possible, quoi. Bon, c'est vrai, certaines choses que je vois là... Par exemple, ça, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est vraiment...
C'est un objet de torture.
Incroyable, ça. Hein, c'est la soumission, quoi. Donc, voilà, quoi.
Oui, on a entendu l'émotion de ces visiteurs. Gilbert Pagot, cette émotion, est-ce qu'elle vous surprend?
Non, elle ne me surprend pas. Ça répond à la question précédente que vous avez posée. Je crois qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Les gens veulent comprendre. Les gens sont attachés à redécouvrir. Alors, ça, c'est une partie de la mémoire. Mais en même temps, à découvrir aussi les travaux historiques qui en parlent. Et on a multiplié maintenant, mais il n'y en a pas assez, mais on a multiplié quelques lieux de mémoire en Martinique. Bon, par exemple, il y a, à propos de la traite au diamant, ce qu'on appelle le Cap 110, là où il y a eu un naufrage de gens qu'on avait mis en esclavage et qu'on voulait vendre en période où c'était interdit. Il y a aussi ce musée dont vous venez de parler. Il y a aussi la transformation récente, par exemple au musée de la Pagerie, où on s'est mis à faire vivre les familles esclaves, les familles esclavisées de la fin du XVIIIe siècle.
Ça montre l'importance de ce genre de site. On en a besoin
en
Outre-mer.
On en a absolument besoin. Alors, c'est très lié à la mémoire, c'est vrai, mais ça permet aussi de faire des ouvertures sur l'histoire, sur les travaux historiques. Et ça, c'est important.
Alors, en Afrique aussi, hein, il y a des gouvernements qui ont initié des politiques mémorielles concrètes depuis quelques années. Au Sénégal, bien sûr, avec l'île de Gorée, mais aussi au Bénin, avec la route de l'esclave, au Ghana, avec des sites touristiques mémoriels à Elmina ou Cape Coast. Ibrahim Atioub, ces sites sont très fréquentés, et qui les visite?
Si je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est l'exemple de l'île de Gorée, qui est érigée comme lieu de mémoire depuis l'époque coloniale. Et le Sénégal a voté une loi en 2010 reprenant presque mot pour mot la loi Taubira.
Oui, qui reconnaît la traite comme un crime contre l'humanité.
Et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais malheureusement, il y a une petite erreur dans la loi, voire même une grande erreur, parce qu'il y a la confusion entre la traite des esclaves et l'esclavage, qui considère que la traite a été abolie le 27 avril 1848, alors qu'il s'agissait de l'esclavage et que le Sénégal était concerné parce qu'il y avait des esclaves à Saint-Louis qui ont été libérés, à Gorée qui ont été libérés. Donc, Gorée est visitée par des touristes particulièrement afro-descendants venus d'Amérique, mais aussi c'est quasiment tous les élèves de l'école sénégalaise, dans les programmes, il est recommandé de faire visiter le musée de la maison des esclaves par les élèves qui suivent un cours sur la traite, en particulier en classe de quatrième. Le seul problème est que, à force de concentrer tout sur un lieu de mémoire, on tend à voiler l'histoire de la traite, quelle était la dynamique et la complexité.
Par exemple, Gorée, sur la côte, il n'y a pas de site mémoriel dans les terres, là où, au fait, la route des esclaves se faisait.
Voilà, la majorité des esclaves venaient du Haut-Sénégal-Niger. Quand vous allez dans le Haut-Sénégal-Niger, il n'y a pas de lieu de mémoire. Il y a eu des compétitions entre ces lieux de mémoire, Gorée, Gambie, Bénin, Ghana. Alors que quand on prend des pays comme le Mali, le Burkina qui n'ont pas de côte, on a l'impression qu'ils sont exclus de ces lieux de mémoire, alors que l'immense majorité des esclaves venaient de ces lieux. Quand vous allez à Kumasi, autour du pays d'Agomba pour le Ghana, c'est Cape Coast et donc où sont placés les lieux de mémoire. Et donc c'est là où les historiens doivent intervenir pour à la fois éclairer ces mémoires, les discuter et les rendre plus intelligibles.
Serge Bilé, en Martinique, comment vous réagissez aux propos d'Ibrahima Thioub et comment vous expliquez cet intérêt qu'ont les Antillais-Guyanais et les Africains eux-mêmes pour ces lieux de mémoire?
C'est la moindre des choses, c'est quand même notre histoire. Quand je dis notre histoire, je dis notre histoire commune, à la fois celle des Antillais-Guyanais et puis celle aussi des Africains. Et moi, quand je l'entends, je suis content parce que le Sénégal est vraiment en pointe. Hein. Il faut souligner ici le travail d'un associatif qui s'appelle Garfa Diallo, qui a fait un très gros travail aussi par rapport au Sénégal. En Côte d'Ivoire, par exemple, d'où je viens, c'est plus compliqué. Je me souviens qu'en 98, j'avais approché le ministre de la Culture, Bernard Zadizaourou, pour qu'on puisse avoir au moins une statue d'un esclave qui brise ses chaînes. Et il avait accédé à ma demande, on avait construit cette statue à Cocody, près d'une église, qui s'appelle l'église Saint-Jean. Eh bien, quand le gouvernement Gbagbo est arrivé en 2000, eh bien, on a enlevé la statue, on a mis à la place la statue de l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean, je ne sais plus, mais c'est pour vous dire, alors que lui, hein, ce président était historien, pour vous dire à quel point on a du mal encore à trouver dans certains pays africains donc une place pour cette histoire-là. Et je suis content que les Antilles montrent l'exemple, et même si c'était difficile, hein, Gilbert Pagot l'a dit aussi, c'était difficile pour nous ici, mais il faut montrer l'exemple pour que justement cette mémoire soit commune, que les Africains se sentent plus concernés que ça par cette histoire, alors qu'il n'y a pas de commémoration en dehors du Sénégal et peut-être de quelques pays ici et là.
Ça veut dire que les Africains, vous pensez que les Africains ne se sentent pas assez concernés?
Ils se sentent moins concernés, peut-être parce qu'ils se disent, ben ils sont partis, c'est loin. Ils se sentent moins concernés. Il faut aussi ajouter un bon point, hein, parce que bon, je parle de la Côte d'Ivoire, donc par rapport à ce fait-là, mais il faut pas oublier que il y a en 2016, le ministre de la Culture, donc de 2016, Maurice Mandama, qui est aujourd'hui ambassadeur à Paris, a lancé ces journées mémorielles qui ont eu lieu donc en Côte d'Ivoire, et on a pu justement accueillir une nouvelle délégation de Boni qui est venue de Guyane, et c'était également un événement. Donc ce sont des petits pas, mais ces petits pas, il faut les saluer, mais aussi reconnaître que en termes de commémoration, l'Afrique est vraiment très très en retard.
Vous êtes d'accord, Ibrahima Thioub, l'Afrique est en retard?
Non, je ne partage pas cette façon de voir. Peut-être, bon, la Côte d'Ivoire, je ne connais pas trop bien, mais je sais qu'il y a eu un énorme investissement qui n'était pas désintéressé parce que le tourisme était porté dans les années 70 avec les crises économiques, en particulier ce qu'on appelait la crise du pétrole. La production agricole a été très affectée et le tourisme est venu en appoint et ce tourisme mémoriel a été extrêmement développé. Cela a entraîné même une compétition entre des nations pour savoir qui a le plus exporté, ce qui était une compétition de malvenue. Que ça soit, quand vous prenez le film Roots, la Gambie l'a exploité pour pouvoir attirer le maximum de touristes. Le Sénégal, il y a Gorée, bon, on a un peu oublié Saint-Louis, mais cela a un revers. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, au Bénin, la porte du non-retour, avec le chemin que parcourent les touristes, c'est exploité et mis en place par une famille qui a été un des intermédiaires les plus actifs, les plus dynamiques, qui servait d'intermédiaire dans la déportation des esclaves africains. Donc ça, c'est la mémoire, mais cette mémoire doit être réinterrogée de façon critique, mais je pense que aussi bien au niveau des programmes scolaires, au niveau de la recherche depuis, disons, 2000, la traite a été très attaquée comme objet de recherche, et même antérieurement, quand vous prenez les thèses qui ont été soutenues dans la plupart des universités africaines, portent justement sur cette connexion triangulaire Europe-Afrique-Amérique. On a énormément mené des recherches là-dessus. Il y a des cinéastes se sont attaqués à la question, les littéraires, des romans, des pièces de théâtre.
Les Africains se sont emparés de cette histoire.
Les Africains se sont emparés du sujet, y ont travaillé, mais souvent ce qui a manqué, c'est de saisir toute la complexité du phénomène, et particulièrement à l'intérieur du continent. On a considéré que c'était une relation Europe-Afrique, et on l'a vu juste au moment du contact de la côte, en oubliant ce qui se passe à l'intérieur du continent. La même chose, ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe, c'est pas seulement Nantes-Bordeaux, mais il y a toute une économie derrière qui alimente. Cette connexion a été un acte fondateur des modernités atlantiques. Et en Amérique, les transformations ont été extraordinaires également, mais c'est cette complexité qui n'est pas souvent prise en compte. On s'en arrête juste à la mémoire, noir contre blanc.
Merci, Brahim Atchoub.
Même le terme de traite négrière ne s'y est pas, parce qu'il ne s'agissait pas à proprement parler. Le terme négrier ou négrière, c'est une invention des négriers.
Le groupe Boucan, un groupe Bélé, la musique traditionnelle de Martinique, avec le titre Bélia. Certains viennent même s'installer sur la terre de leurs ancêtres. Le Ghana, par exemple, a mis en place une politique de retour pour la diaspora. Le Bénin attire aussi les afro-descendants. Je vous propose d'écouter ce reportage à Cotonou de Nathalie Sarfati et de Nordine Benspaï d'Outre-mer la Première.
Ils ont tout quitté pour s'installer au Bénin. Ils sont guadeloupéens, martiniquais, et ont décidé d'effectuer un retour sur la terre de leurs ancêtres. Papa et maman Ruth, leur petit garçon de 5 ans, vivent depuis un peu plus d'un an en zone rurale près de Calavi. Leur désir de partir de Guadeloupe ne date pas d'hier, raconte maman Ruth.
Ça fait longtemps qu'on parle de retourner en Afrique, de retourner à la terre-mère, ce besoin d'être reconnu parmi les nôtres en fait. C'est toute une démarche pour se retrouver, pour revenir à soi et pour récupérer sa vraie identité.
Steven Danglade est né lui en Martinique, lui aussi a toujours regardé vers l'Afrique. Il rencontre sa future femme, originaire du Bénin, dans son école d'ingénieur à Rouen. En janvier 2021, il saute le pas.
Le déclic, c'est qu'on voulait vraiment œuvrer dans un secteur qui soit porteur en Afrique, c'est-à-dire qu'on avait un peu cette démarche panafricaine. On s'est dit dans quel secteur on va se positionner pour impacter le continent.
Tous ces Antillais installés depuis peu au Bénin comptent demander la nationalité du pays. Il faut 3 ans de résidence pour l'obtenir, un délai parfois perçu comme trop long quand une famille de 5 personnes peut être amenée à dépenser plus de 3 000 euros par an en procédure administrative. C'est le cas d'Axamia. La Martiniquaise a créé ici la MIR Bénin, médiation internationale pour les réparations. Elle souhaiterait que les autorités réduisent le délai d'obtention de la nationalité pour les descendants d'Africains déportés.
Pour nous, c'est une guérison, c'est une réappropriation. En réalité, nous souhaitons retrouver la nationalité que nos ancêtres nous auraient transmise s'ils n'avaient pas été déportés. Nous ne nous considérons pas comme des étrangers.
Le ministère de la Justice a été saisi. Il serait près de 200 Antillais à espérer ce retour au Bénin.
Un reportage Nathalie Sarfati, Nordine Basma et d'Outre-mer la première. Serge Billet, quelle est votre réaction quand on entend une de ces intervenantes dire « c'est une guérison que de retourner sur la terre de ses ancêtres, une réappropriation ?»
Oui, c'est une réalité. Moi, je l'ai constaté avec tous les groupes martiniquais et guyanais avec lesquels je suis parti en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que c'est important de créer ce pont. Et en matière de pont, justement, je pense qu'il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage à Aimé Césaire. Aimé Césaire était l'un des premiers à construire ce pont. Je me souviendrai toujours de ce vol qu'il a organisé en 1976.
Aimé Césaire, qui est un homme politique, oui, martiniquais, politique, écrivain également.
Poète, voilà. Et le vol direct, le premier vol direct qui a existé entre l'Afrique et les Antilles a été mis en place par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Senghor est venu en 76 par un vol direct avec une troupe du Sénégal. Ils sont venus ici en Martinique et dans le même sens, ils sont repartis avec des Martiniquais, 200 Martiniquais qui sont repartis donc de l'autre côté. Donc c'était le premier échange direct. Il faut savoir que la première personne, la première homme d'État africain qui est venu librement ici en Martinique, c'est quand même Léopold Sédar Senghor. Avant lui, il y avait Hubert Anzin, mais qui était venu donc avec des chaînes. Et de la même façon, on a par la suite, nous en 1994, on a mis également en place un vol direct entre la Martinique et la Côte d'Ivoire. Donc ce genre d'échange là, c'est important. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, parce que on parle du passé, il faut parler du présent, il faut parler de l'avenir. Comment est-ce qu'on peut réparer, comment est-ce qu'on peut nous rapprocher? Et ça, cette liaison aérienne qui manque encore aujourd'hui entre l'Afrique et sa diaspora devrait être, à mon avis, une des réponses. Actuellement, il y a Air Sénégal qui essaie d'envisager un vol direct aussi entre la Martinique et Dakar. Il faut encourager ce genre de choses, parce que plus nous aurons envie de nous rencontrer, plus nous aurons les moyens de nous rencontrer, plus peut-être on pourra guérir les blessures du passé, puisque vous parlez de guérison, guérir les blessures du passé et peut-être mieux nous connaître pour avoir peut-être moins de ressentiments et plus d'envie de fraternité.
Ibrahim Mathieu, il y a des Africains qui vont aux Antilles pour tenter d'en savoir plus sur cette histoire douloureuse. Parce qu'on parle de la venue des Antillais en Afrique, mais est-ce que les Africains font aussi le voyage dans l'autre sens?
Oui, bien sûr, il y a des Africains qui vivent dans les Antilles et ils sont nombreux et qui font le lien entre l'Afrique et les Antilles. La circulation entre les deux date de très longtemps. Déjà à l'époque coloniale, au début du XXe siècle, déjà on a une très forte circulation. Et après les indépendances, dans le cadre de la coopération, on a dans l'Afrique francophone énormément d'enseignants venant des Antilles. Et aujourd'hui, des enseignants africains, j'en connais plein d'enseignants sénégalais qui sont en service dans les Antilles. Et cette circulation, on pourrait parler de René Maran, de Félix Eboué, de Marius Condé, qui ont restitué leur expérience. À Dakar, vous avez carrément des quartiers d'entiers, la circulation au niveau des musiciens des deux côtés. Mais bon, il faut ajouter qu'il y a eu effectivement blessure. La guérison est difficile puisque ces retours n'ont pas toujours été très heureux. Je citerai un cas très heureux, c'est après le tremblement de terre à Haïti. Le président Wade avait accueilli des étudiants haïtiens dans les universités sénégalaises. Ça a été une expérience heureuse. Mais quand on lit Une vie sans phare de Marius Condé, on a un exemple de rencontre assez heurtée, assez difficile, qui montre toute la complexité de la question identitaire. Dans ses couturiers, lui dit, on reçoit une sœur. Elle dit une sœur qui a été vendue.
Alors vous le disiez, les échanges sont anciens, la circulation entre les Antilles, la Guyane et l'Afrique est ancienne. En Côte d'Ivoire, dès l'indépendance, le pays a accueilli des ressortissants d'outre-mer. Le président Félix Houphouët-Boigny avait même nommé des Antillais au gouvernement. La communauté est donc bien implantée depuis longtemps dans le pays et certains ont partagé leurs souvenirs avec le correspondant de RFI à Abidjan, Sidi Yansané.
À 85 ans, Kétilina Liguer-Loboué fait partie des doyennes guadeloupéennes de Côte d'Ivoire. Elle arrive à Abidjan après avoir rencontré son futur mari ivoirien en France. À l'époque, l'Afrique n'est pas très bien vue des Antillais. L'octogénaire se souvient de la première visite de ses parents en Côte d'Ivoire.
Mon père, quand il a vu Abidjan éclairé, c'était extraordinaire. C'est vrai, les Antilles n'étaient pas aussi éclairées. Comment ? Nous sommes département. Il n'a pas été content.
Enseignante puis bibliothécaire, Madame Liguer-Loboué est vite repérée par le célèbre écrivain Bernard Dadier qui la charge de créer la Bibliothèque nationale et d'organiser les rayons dans les écoles. Un poste stratégique parmi d'autres occupé par des Antillais.
Notre premier ministre des Finances et de l'Économie, c'était un Martiniquais, Raphaël Salaire. À la limite, j'oublie que je ne suis pas ivoirienne, de naissance.
Sa cadette martiniquaise, Roland Dorsiné-Été, a aussi bâti sa vie à Abidjan avec un Ivoirien, président de l'association des Antillais et Guyanais, elle constate un retour progressif aux sources africaines.
Les Antillais, ils veulent connaître l'Afrique, ils veulent connaître leurs origines, ils viennent de plus en plus s'installer ici. Bon, la Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays d'accueil. Être ivoirien n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Dixit ou fouet.
L'association dénombre 200 Antillais dans le pays, mais précise qu'ils étaient plus du double avant la crise post-électorale de 2011. Sidi Yansané, Abidjan, RFI.
Jean Moumou, vous êtes en Guyane, on a beaucoup parlé des Antillais hein, qui font ce voyage en Afrique pour renouer avec leurs racines. En Guyane, est-ce que vous constatez cet intérêt également pour l'Afrique, vous qui êtes d'origine Boni également, vous allez nous expliquer quel est ce peuple d'ailleurs?
Alors, les Boni sont des descendants d'esclavisés marrons du Suriname qui ont gagné leur liberté, bien sûr, par la lutte, mais il y a aussi les Djouka, les Saamaka, hein. Serge Billet connaît bien ces peuples-là. Alors, mais jusqu'à une époque récente, c'était une fierté, même si les Bushnengue n'avaient jamais vu un Africain, jusqu'aux années 60, 70, 80, c'était une fierté, même dans les expressions. L'Afrique était présente. Or, aujourd'hui, j'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est lié aux images envoyées par la télévision, il y a un changement de regard tout de même entre les générations. Mais l'Afrique mise à distance en quelque sorte. Mais il y a d'autres générations, je connais des personnes qui apprécient. Moi, je prends la génération des personnes qui ont moins de 90 ans là. Ben, c'est une fierté. D'autres de ma génération, allez, 40, 50 ans, l'Afrique est différente, est perçue différemment. Et puis, les nouvelles générations qui ont moins de 20 ans, pareil. Là, c'est vraiment, il n'y a plus cette unité dans
comment
la vision.
Comment vous l'expliquez, Jean-Momo?
Mais c'est lié, comme je disais, au regard envoyé par la télévision. Et j'ai jamais oublié je ne vais pas citer de nom, qui disait, mais heureusement, nous avons eu la chance de quitter l'Afrique, nous les Bushnengue, pour habiter en Guyane française. Enfin, en Guyane ou au Suriname. Vous voyez? Et c'est des personnes de ma génération, quoi. J'ai dit, mais c'est terrible ce que vous venez de dire. Donc, franchement, il y a un engouement, mais cet engouement, quand je le compare avec ce que j'ai observé chez les anciens, il y a une grande différence. Hein, et puis des problématiques liées à l'identité chromatique dont parle M. Ibrahim Mathioub. C'est vrai, nous, on n'était pas victimes de ces Bushnengue jusqu'à une époque récente. Aujourd'hui, il y a une lecture qui se développe de plus en plus. Hein, et on n'avait pas. Hein. Il y a
de nouvelles questions
qui se posent liées à ces problématiques-là. Et puis pour rebondir, beaucoup de temps, je sais bien, mais l'idée du, il y a ce que j'ai appelé le Gorée centriste. C'est vrai, tout est centré comme si tout le monde est parti de Gorée. C'est faux. Donc Ibrahima, tu m'as bien explicité ça. Tout le monde ne vient pas de Gorée. Et puis il y a un silence aussi au niveau des historiens qui ont la religion musulmane, qui ne parlent pas de la traite arabo tellement.
Alors la traite arabo mériterait une autre émission. En tout cas, cette question des liens entre les Antilles et l'Afrique, c'est bien celle d'un socle commun, mais finalement de deux cultures différentes. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Raphaël Confiant, hein, c'est l'un des auteurs du manifeste L'éloge de la créolité, rédigé en 1989. Pour lui, négritude, créolité doivent s'accorder, c'est ce qu'il vous a expliqué Thierry Belmont. On écoute Raphaël Confiant.
L'Afrique est fondamentale dans la construction de la créolité. Elle a été longtemps masquée par le processus colonial, que tout le monde connaît, par le racisme, par le rejet de la couleur noire, par toutes ces choses que l'on connaît bien aujourd'hui. Et nous sommes sur la même position qu'Aimé Césaire, c'est-à-dire de la négritude. Ça peut paraître bizarre que je dise ça, parce qu'on a monté en épingle un prétendu conflit entre négritude et créolité. Mais nous sommes sur la relation avec l'Afrique parfaitement en phase avec Aimé Césaire. Que dit Aimé Césaire? Aimé Césaire ne dit pas, comme les afrocentristes, retournons en Afrique. Il ne dit absolument pas ça. Il dit quelque chose qui est extraordinaire. Domicilions l'Afrique aux Antilles. Qu'est-ce que ça signifie, domicilier l'Afrique aux Antilles? Cela veut dire qu'au sein de la culture créole, qui est multiple, qui est diverse, qui est kaléidoscopique, au sein de cette culture créole, il faut tout faire pour renforcer, développer, magnifier les aspects africains de cette culture. On voit bien là que c'est une perspective complètement différente de celle qui dit, ben, abandonnons ces îles où on a exporté nos ancêtres et revenons en Afrique. Je ne critique pas cette position. C'est la position de ces gens. Ils veulent revenir au continent qu'ils disent être le continent mère. Bon, eh bien, qu'ils le fassent, ça ne pose absolument, ça ne nous pose pas problème. Simplement, nous disons que nos ancêtres ont travaillé dans les îles antillaises pendant 3 siècles, qu'ils ont forgé, construit ces îles avec leur sueur et leur sang, que nous sommes désormais des néo-autochtones, parce que les vrais autochtones étaient les Caraïbes, les Amérindiens. Ils ont été massacrés, mais nous avons pris le relais. Ils étaient les autochtones, mais nous sommes désormais les néo-autochtones de ces îles. Ce sont nos îles, c'est nous, c'est à nous. Donc il est hors de question d'imaginer qu'au nom d'une espèce d'afrocentrisme, nous abandonnerions ces îles pour retourner en Afrique.
Voilà pour les propos de Raphaël Confiant, Gilbert Pagot en Martinique. Quelle est votre réaction suite à ces propos? Est-ce qu'on magnifie assez la culture africaine au sein de la culture créole?
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Confiant, en tous les cas, à cet aspect, parce que je pense que effectivement, nous avons une culture martiniquaise, je dirais même caribéenne, et parce que tous ces peuples déportés, les afro-descendants, mais aussi plus tard les Indiens, ceux qui viennent d'Inde, et aussi les Chinois qui sont venus au 19e siècle, etc., tous ces gens-là forment une nouvelle communauté. Cette nouvelle communauté ne doit pas oublier l'Afrique, ne doit pas négliger l'Afrique, doit
mais est-ce que c'est ce que vous observez, Gilbert Pagot, autour de vous, au sein de cette communauté créole?
Ben, en tous les cas, moi, je me bats pour ça. Je me bats dans ce sens. En par exemple, le fait que la Martinique avait reçu, on avait déporté le roi Béhanzin. Ben moi, je trouve que normalement, il devrait y avoir des lieux de mémoire pour le passage de Béhanzin à la Martinique. Surtout qu'il avait habité Fort-de-France et que pendant plusieurs années, il y a vécu. Et moi, je crois que d'ailleurs, ce sera un très beau lien avec le Bénin. Exactement. Et avec le Dahomey, l'ancien royaume du Dahomey. Non, moi, je pense, mais moi, je trouve que il y a un effort dans ce sens. Il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui prennent conscience de cela et ce travail est en train de se faire. D'accord. Et ça, c'est une bonne chose.
Tout à fait.
Merci Gilbert Pagot. Vous étiez en direct des studios de Martinique la Première. Serge Billet également, vous étiez en direct de ces studios. Merci à vous également, Jean Momou, depuis les studios de Guyane la Première. Et enfin, merci à vous, Ibrahim Thioub. Vous étiez en direct du Sénégal pour cette émission spéciale.
Merci à vous, Anne Corpet.